Édouard Rod, pension de famille, carnet d'hiver d'un vieux garçon. Genève, 10 octobre 1800. Aujourd'hui, nous nous sommes trouvés de nouveau seuls à table. Madame Minier, sa fille, Angélique, Miss Batson et moi. Les derniers pensionnaires de la saison d'été, une famille suédoise de 4 personnes qui a tenu bon jusqu'aux bises de ces jours-ci, sont partis pour l'Italie. Je les ai toujours enviés, ces gens qui passent leur vie en voyage, à chercher la fraîcheur en été et le soleil en hiver. Et si jamais j'ai des rentes, je ferai peut-être comme eux. Il est vrai que je n'en aurai jamais. La République et canton de Genève offrant à ses fonctionnaires peu de chances de faire fortune. D'ailleurs, j'ai d'autres motifs pour rester où je suis. J'ai mes habitudes, je suis bien l'enfant gâté de la maison, on ne m'espionne pas trop, on me laisse découcher le samedi sans s'inquiéter de moi, et j'assiste à un défilé de gens de toutes sortes et de toutes nations qui me donne l'illusion d'un perpétuel tour du monde. En ai-je vu, depuis 8 ans, des Anglaises, des Russes, des Françaises, des Allemandes, de belles et de laides, de jeunes et de vieilles, en famille ou voyageant seules, mélancoliques, sentimentales, rieuses, souvent aventurières, quelquefois nobles et pauvres, ou riches et avares. Les multiples variétés de l'espèce féminine, telles qu'elles fleurissent sous les divers climats de l'Europe. J'ai même eu plusieurs fois l'occasion, sans changer de place, de pousser quelques reconnaissances dans les autres continents. L'Amérique du Nord et l'Australie, d'abord, donnent presque autant que l'Angleterre, à laquelle elles ressemblent comme des filles émancipées à leur mère. L'Amérique du Sud est plus rare. Et c'est dommage, car elle est ravissante, l'Amérique du Sud. Elle a des pieds, des mains, un teint inimitable et des yeux noirs. Oh, des yeux qui auraient fait damner Calvin lui-même. Quant à l'Afrique, elle n'a été représentée qu'une seule fois, par une négresse qui avait épousé un Espagnol. Je ne connais encore l'Asie que par 2 Japonais, mais les hommes, cela ne compte pas. Ils ne savent pas donner une idée exacte de leur pays. Les changements de saison sont seuls pénibles à passer. D'abord, ils sont désagréables dans nos climats. C'est l'époque où je voudrais aller à Nice, à Naples, à Alger, partout où il fait chaud. Puis la pension est vide, et je déteste cela. Je me sens pris de tristesse à voir la longue table vide avec ses 4 services au bout. Je ne parle pas du régime, qui subit des modifications économiques et désastreuses, et dont je souffrirais si Miss Batson n'en souffrait plus que moi. L'entendre pester et grogner, cela me console des mauvaises pâtées que Madame Minier nous sert avec son calme imperturbable, dès que nous sommes, comme elle dit tendrement, en famille. Aujourd'hui donc, premier jour de notre solitude d'automne. Miss Batson a fait une entrée superbe. En voyant la table vide, elle a commencé par pousser un soupir de soulagement. « Ouf, les voilà partis, ces gens insupportables !» C'est ainsi qu'elle salue tous les départs. Mais en même temps, elle a remarqué qu'il y avait de la panade dans la soupière. Alors elle a poussé un second soupir, pas de soulagement celui-là, et a dit en me regardant « Voilà l'air des ragoûts qui commence. » Moi, pour la taquiner, j'ai répondu « Mais je ne les déteste pas, les ragoûts, d'autant plus que Madame Minier les fait très bons. » Alors, son rosolio a passé du pourpre au violet. Elle m'a foudroyé des yeux, tandis que Madame Minier me jetait un regard reconnaissant. Elle me fait pitié, Madame Minier, dans ces moments-là. C'est une personne très méritante qui a su très bien diriger sa petite barque quand elle est restée veuve avec un enfant sur les bras et presque sans ressources. Comme je voyais ses yeux inquiets errer autour de la table vide, je lui ai dit, pour la consoler, « C'est toujours la même chose au changement de saison. » Mais elle était tombée au noir. « Oui, m'a-t-elle dit, c'est vrai, mais on ne sait jamais comment ça finira. » Miss Batson se taisait et boudait. Pourtant, quand elle a vu apparaître un ragoût dans lequel le rôti de bœuf de la veille était reconnaissable, elle n'a pu s'empêcher de s'écrier avec amertume. « Bon, les restes, je l'avais bien dit, je déteste les restes, moi. En Angleterre, on ne les mange jamais, on les donne aux bonnes. » Moi, pour faire plaisir à Madame Minier, je dis d'un ton léger « Bah, quand la sauce est bonne, tout passe !» Alors Miss Batson s'emporta tout de bon. Son rosolio, qui avait repris sa couleur naturelle, pâlit brusquement, et ce fut sans doute un flot montant de bile qui lui donna pour quelques secondes une teinte saumon. Elle cria, en brandissant sa fourchette, « Oui, oui, ces hommes sont tous les mêmes. Ils ne s'inquiètent ni du fond ni de la qualité. C'est la sauce, rien que la sauce qu'il leur faut. Vous savez, monsieur Nantou, je m'explique maintenant la sympathie que vous aviez pour mademoiselle Laurence, avec qui on... » « Oh, chère miss !» interrompit la bonne madame Minier. « Mademoiselle Laurence était une charmante personne, très distinguée et du meilleur monde. » À cette interruption, le nez de Miss Batson, braqué sur moi, se détourna en jetant des flammes. « Ne me parlez pas de cette fille, je vous prie. Des toilettes, oui, des petites manières, du jargon, ce qu'il faut pour jeter de la poudre aux yeux des hommes. Et exactement comme le plat que vous nous servez. Des restes avec une mauvaise sauce. Heureusement que les hommes se contentent de peu. » Elle se retourna vers moi et m'interpella ironiquement. « Qu'en dites-vous, monsieur? Car ce n'est pas à madame à défendre cette fille. C'est à vous, bien à vous. » « À moi? Et pourquoi donc, chère miss, je vous en prie? » « Et comment, pourquoi? Elle vous aimait. Et vous vous laissiez aimer. Ça vous allait. Étiez-vous fière quand elle vous regardait avec des yeux, comme des bouches qui ont faim? Mon Dieu, que les hommes sont lâches. Ils n'ont pas même le courage de leurs opinions. » Ça m'agace toujours quand elle attaque les hommes en général. « Moi, lui dis-je, j'ai le courage de la mienne. Elle était très agréable, mademoiselle Laurence, très charmante, et je la regrette beaucoup. Mais j'espère qu'il en viendra d'autres, cet hiver, qui la vaudront. Cela vous choque, chère miss? Que voulez-vous? Puisque vous ne me permettez pas de vous faire la cour, il faut bien que je me console comme je peux. » Ces petites querelles avec Miss Batson sont ma seule distraction pendant que la pension est vide. Mais voilà 8 ans que cela dure, et je commence à en être là. Je la déteste, cette vieille spinster. Avec ses déclamations continuelles contre les hommes, elle me ferait prendre les femmes en horreur. Est-ce notre faute si elle a le rosolio, si elle est laide, si elle est méchante, si elle est désagréable à tout le monde? J'ai su écarter de moi les embarras de famille, de maîtresse ou d'amitié qui obstruent l'existence de tant de gens. Je me suis créé toutes sortes de menues satisfactions qui me font aimer la vie. Dans cette pension où il y a toujours en passage quelque aimable étrangère, je trouve 1000 occasions de savourer le meilleur de la femme. Le sentiment, la grâce, le charme, sans m'attirer les désagréments qui accompagnent les plaisirs grossiers. Miss Batson est le seul nuage dans mon ciel. Il est gros, ce nuage, encombrant, d'une vilaine couleur, mais je m'applique à l'accepter avec résignation, en me disant que la Providence aurait pu me soumettre à de pires épreuves, en lui rendant grâce d'avoir choisi celle-là entre toutes celles dont elle pouvait m'affliger. Même en réfléchissant là-dessus, je ne puis me lasser d'admirer la sagesse de ses décrets. Vieille fille et vieux garçon, nous étions destinés à vivre ensemble. Moi, pour achever de lui aigrir le caractère, tout en servant de soupape de sûreté à ses mauvaises humeurs, elle, pour m'infliger la part d'ennui qui revient de droit à tout être humain, et me troubler comme il convient dans ma quiétude. D'ailleurs, quand les vrais étrangers sont là, je ne m'aperçois plus guère d'elle. Décidément, quand j'aurai des rentes, je resterai auprès de Miss Batson. Sans elle, je serais trop heureux. Il m'arriverait des malheurs pires. 26 octobre. De nouveau, la maison est pleine, la table plus abondante, Miss Batson plus grincheuse, Madame Minier affairée et satisfaite. Et pendant les repas, c'est le jargon de la tour de Babel. Ce sont d'abord trois Écossaises, une mère avec ses deux filles. La mère a de longues dents et un air de dogue. Les filles, qui sont jumelles et répondent aux jolis noms d'Annie et de Lottie, sont blondes, fraîches, simples, avec des yeux clairs et francs qui donnent envie de les aimer. Elles ont 16 ans. Si elles en avaient 10 de plus, mais à quoi vais-je penser? Il y a déjà, par le monde, tant et tant de demoiselles approchant de la trentaine, sur le point de coiffer Sainte-Catherine, et rétives à cet arrêt de leur destinée, qu'elles combattent de toutes leurs ruses, de toutes leurs petites combinaisons, en sorte que, pour peu qu'elles soient un peu jolies, un peu spirituelles, et n'aient encore que quelques-unes des manies qu'elles auront dans la suite, on pourrait croire qu'elles ont été créées par la divine Providence dans le seul but d'amuser, par leurs agaceries, les vieux garçons incorrigibles. Depuis que je suis chez Madame Minier, il ne s'est pas passé une année sans qu'il y en ait au moins une à table à côté de moi. Il y en a eu jusqu'à 3, ce qui est une de trop. Cette année, nous sommes dans la bonne moyenne, il y en a 2. 2, c'est juste ce qu'il faut. On a la jalousie avec les petites scènes qu'elle provoque, les petites intrigues, les petits commérages, et l'on a de plus l'émulation. Entraînés réciproquement, le moindre geste de l'une éperonnant l'imagination de l'autre, elles glissent plus loin qu'elles ne voudraient sur le terrain des avances. Avec moi, elles ne risquent pas grand-chose, les chères, car il ne rentre pas dans mes principes de me laisser aller à des entraînements dont on ne peut jamais prévoir les suites. Je suis honnête et prudent, et n'ai jamais eu aucun reproche à m'adresser. Les choses vont comme elles veulent. J'y trouve toujours un peu de plaisir, et je sais bien qu'au moment où la situation devient trop chaude, arrivent à point nommé la fin de saison et les adieux. Pour être tout à fait sincère vis-à-vis de moi-même, je dois reconnaître que cette scène des adieux me cause toujours une certaine émotion. Mais cette émotion ne manque pas d'un certain charme, et j'en ai si peu dans ma monotone existence que je me fais un plaisir d'attendre le retour périodique de celle-là. De mes 2 amies de la saison, la première, Madame Aubanon, se dit veuve, et l'est peut-être. Elle est française et possède le charme particulier aux femmes de son pays. De la vivacité, de l'esprit, de la grâce, des yeux gris font toute sa beauté, de petites mains expressives qui remuent, courent, s'agitent, mais aussi une certaine inquiétude dans les allures, un peu de fièvre quelquefois. Des nerfs, comme dit dédaigneusement Miss Batson. Qui est-elle? D'où vient-elle? Que fait-elle? Je n'en sais rien. Elle n'a fait de confidence à personne, et ce qu'elle montre d'elle-même n'est guère significatif. Elle s'habille avec beaucoup de goût et même d'élégance, mais elle évite avec un tact étonnant toute dépense extra et boit de l'eau au repas. L'autre, Mademoiselle Claire Sandrin, est folle d'un pasteur du pays, orpheline depuis peu de temps. Elle a quelques rentes et vit en pension pour éviter les ennuis d'un ménage. Intelligente et instruite, elle suit des cours, fréquente les conférences publiques et les séances de musique classique. Elle a une serviette en toile cirée, porte des livres sous le bras, et malgré cela, grâce à ses cheveux d'un blond exquis, grâce à ses yeux où flotte un mystère, grâce à un sourire très féminin qui éclaire volontiers son visage, elle conserve un charme, elle intéresse, elle plaît. Je lui pardonne d'avoir sur trop de questions des opinions arrêtées. Elle n'a certainement pas plus de 26 ou 27 ans, tandis que Madame Aubanon doit avoir passé la trentaine. Ces deux personnes, poussées par la similitude de l'âge et de la position, sont allées tout droit l'une à l'autre. Elles sortent ensemble, elles se recherchent, babillent dans des coins, se prêtent des livres et font de la musique à quatre mains en se disputant sur les maîtres. Car Madame Aubanon ne jure que par Massenet, éclair et wagnérienne. Je sais d'avance ce qu'il en adviendra de leur belle amitié, et je sais bien aussi ce qui se passera entre elle et moi. Mais cette fois, cela ne s'engage pas vite. J'ai un rival. Un bel homme, ma foi, de mon âge, plus grand, plus vigoureux, avec de crânes moustaches et l'air d'un ancien officier. Le verbe haut, la plaisanterie facile, il a sur moi, entre autres avantages signalés, celui d'amuser beaucoup les dames, par des saillies dont son accent bizarre rehausse la saveur. Il se dit hongrois et on l'appelle le baron. Il m'inquiète. Les autres personnes qui achèvent de peupler la pension sont un pianiste allemand, M. Vogel, type de l'emploi, qui vient chercher ici des leçons à donner. Eh bon Dieu, quelle aberration! Genève ressemble déjà à une boîte à musique, et je doute qu'il y ait, à n'importe quel étage de n'importe quelle maison, une créature humaine susceptible de jouer du piano qui ne soit pourvue de professeur. Bonne chance donc, pauvre garçon. Tu ne tarderas pas à retourner dans ta patrie, va. Et en attendant, console-toi de ton Heimweh en lançant des regards langoureux aux deux jeunes jumelles écossaises. Un couple danois, petit vieux et petite vieille, trottant menu, se susurrant toujours dans leur langue inconnue des choses qui doivent être d'antiques madrigaux. Tous les matins, dans leur chambre, on les entend répéter ensemble la grammaire française, dont ils ne semblent guère profiter. Enfin, une capitaine de l'armée du salut, qui fait ses oraisons avant et après le repas, les yeux au plafond, sa poitrine plate gonflée de soupirs. Elle ne parle qu'à Miss Batson, seul être de la société probablement qu'elle a jugé en état de recevoir la grâce. Voilà le personnel. Il est riche. En parcourant mes notes des années précédentes, je n'en trouve aucune qui ait offert une variété telle de types divers. La saison sera bonne, et mon petit kaléidoscope va tourner. Je suis aussi satisfait que Madame Minier, avec qui j'ai déjà échangé les remarques habituelles. Eh bien, Monsieur Nantou, laquelle des deux ?
Beuh, beuh !
Toutes les deux, alors ? Ah, quel homme ! Quel homme ! On ne le mariera donc jamais. Les sentiments contradictoires de Madame Minier à l'égard de mon hypothétique mariage contribuent aussi à égayer mon existence. D'une part, elle a une peur bleue que je me marie, car elle perdrait son plus fidèle pensionnaire, puisque je suis chez elle depuis 8 ans, une année de plus que Miss Batson. D'autre part, elle sait qu'un mariage qui se fait dans une pension est pour la dite pension la meilleure des réclames. Et elle voit déjà accourir chez elle toutes les personnes, plus ou moins jeunes, qui voyagent avec l'espoir de perdre en route leur célibat. Pour moi, je m'amuse à la traîner d'un sentiment à l'autre, je lui demande des conseils, je me prétends épris et perplexe, et je m'accorde ainsi le luxe d'une répétition gratuite de la scène de Pancrace, où Pancrace passe, pour de bon, et le plus sérieusement du monde, de l'affirmation à la négation. Ce sont là mes petits plaisirs. Il en est de plus vifs qui ne les valent pas. 8 novembre. Ça y est, le tour est joué, et plus vite que je n'aurais cru. Depuis quelques jours, il se préparait, entre le baron et madame Aubanon, des choses extraordinaires. Ce magyar s'était complètement emparé d'elle, après avoir fait à Claire Sandrin des avances en pure perte. Mes compatriotes sont des petites femmes avisées, qui ne prennent guère au sérieux les avances des étrangers dont l'état civil est incertain. En revanche, les yeux de madame Aubanon battaient des pas redoublés, et les moustaches du vieux reître, enduites de la pommade de son pays, se dressaient en crochets vainqueurs. C'étaient des apartés dans tous les coins, des sorties furtives, des regards d'intelligence, bref, toute une comédie mystérieuse et transparente. Un jour, je les ai rencontrés tous les deux sur les ponts. Ils étaient superbes. La jolie veuve sanglée dans son manteau, que la bise collait contre elle. Le baron majestueusement drapé dans un macferlane dont les pans voltigeaient autour de lui. Elle a rougi en me voyant. Lui a pris un air narquois. « Ah, coquin, va, j'ai deviné tes pensées. » En rentrant, j'ai parlé de ma rencontre à madame Minier. Mais madame Minier n'entend pas qu'on parle mal de ses pensionnaires, surtout quand ils portent un titre nobiliaire ou une décoration. « Vous êtes jaloux, monsieur Nantou, » m'a-t-elle dit presque sèchement. « Jaloux ? De quoi donc ? Du reste, si je l'ai été, me voilà bien vengée. » La journée s'est passée dans un désarroi indescriptible. Et le plus drôle, c'est que, excepté moi, que madame Minier était venue consulter, personne ne savait exactement ce qui se passait. Les petites Écossaises, le dogue qui leur sert de mère, le couple danois et le pianiste allemand roulaient des yeux stupéfaits pendant tout le déjeuner. Miss Batson, pour essayer de me faire parler, m'a fait l'honneur de me prendre à part avec un air confidentiel. « Eh bien, il est parti, le baron ?»« Il est parti. » »« Comment cela ? Sans saluer personne ?»« C'est peut-être l'habitude en Hongrie. » « Vous savez, chère miss, que la politesse varie selon les climats. »« Voyons, ne raillez pas. Il a dû se passer quelque chose. »« Pourquoi donc ? On vient, on s'en va, quoi de plus naturel ?» Seule, Claire avait l'air de ne s'apercevoir de rien. Mais le soir, dans le salon où tout le monde se pressait comme dans l'attente de choses vagues, elle m'a dit à voix basse, « Le dénouement a été bien brusque, ne trouvez-vous pas ?» J'ai roulé des yeux étonnés. « Quel dénouement ?»« Ne faites pas l'ignorant, le baron est parti. » »« Je vois bien, mais... » »« Et cette pauvre madame Aubanon n'a plus sa chaîne de montre, ni probablement son porte-monnaie. » »« Vous êtes le diable pour avoir deviné cela !» « Mais non, j'ai des yeux et je m'en sers, voilà tout. » Où a-t-elle acquis tant d'expérience avec son air naïf ? 15 novembre. Cette aventure du baron a tenu pendant toute la semaine la maison en émoi. Madame Aubanon et madame Minier discutaient s'il fallait ou non porter plainte et trouvaient autant de bonnes raisons dans un sens que dans l'autre. Le secret de l'histoire ne s'étant pas éventé, tout le monde cherchait à en surprendre quelque chose, et M. Vogel lui-même semblait sorti du rêve étoilé où le bercent les yeux des deux Écossaises. Claire s'enfermait dans un silence de jeune fille un peu Sainte-Nitouche. Moi, j'exaspérais la curiosité de Miss Batson et donnais des conseils à Madame Minier. À présent, l'équilibre se rétablit peu à peu. on ne déposera pas de plainte, de peur de compromettre à la fois la réputation de la pension et celle de la jolie veuve. Les curieux se résignent à ne rien apprendre. Miss Batson a eu un mot superbe. « Après tout, » m'a-t-elle dit, « cela ne me regarde pas. » Quant à la principale intéressée, Madame Aubanon, elle se rapproche de moi, me soigne et me gâte. « Monsieur Nantou, prendrez-vous un peu de moutarde? Voulez-vous un quartier d'orange, monsieur Nantou ?» Je dis toujours oui, à cause de Miss Batson dont le nez flamboie. Le couple danois me regarde d'un air malicieux en échangeant des observations dans sa langue. Claire observe de son œil intelligent et un peu froid. Que pense-t-elle? Ce n'est pas elle qui m'offre des quartiers d'orange. Elle est trop habile, ou peut-être trop fière, je ne sais pas. Et pourtant, toute sa manière d'être, le sens de ses paroles, le son de sa voix, m'offre une sympathie calme et réfléchie, sans entraînement, avec le mariage au bout. Avec elle, l'hiver se passera tranquillement. Mais l'autre me trouble. Elle est passionnée, peut-être, à défaut de mariage. Se contenterait-elle d'une aventure? Avec des femmes de sa trempe, on ne sait jamais où l'on s'arrêtera. Je me tiendrai sur mes gardes. 22 novembre. 45 ans. Mon Dieu, oui, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Et j'ai 45 ans. Il n'y paraîtrait pas, par exemple. J'ai encore tous mes cheveux. Pas un poil blanc à ma barbe. À peine deux rides au front. Et encore, bien légères. Qui complètent ma physionomie plutôt qu'elle ne me vieillisse. Voilà ce que c'est que d'avoir su mener une existence exempte de soucis. Oui, je puis le dire avec une certaine fierté, j'ai échappé à beaucoup des tracas qui dévorent la vie humaine et la font finir prématurément dans de laides maladies. Fils unique et orphelin de bonheur, j'ai bien suggéré mon petit patrimoine. S'il n'a pas augmenté, il n'a subi aucune avarie et m'a toujours rendu des intérêts raisonnables. C'est beaucoup par le temps qui court. Je me suis donc senti indépendant d'un bout à l'autre de ma carrière, en sorte que si ma fonction m'avait occasionné le moindre embarras, j'aurais pu m'en démettre sans trop d'inconvénients. Les hommes que je connais, mes anciens camarades d'études ou de jeunesse, traînent tous à leur suite des fardeaux lourds comme des boulets de forçat. Les uns ont une famille interminable et qui s'allonge sans cesse. Leurs femmes n'embellissent pas avec l'âge. Leurs enfants sont toujours malades quand ils sont petits et tournent mal quand ils sont grands. D'autres sont en prise aux soucis d'argent. D'autres ont des passions dont ils sont esclaves. Le vin, l'absinthe, l'argent, la politique ou la femme. Non, je n'ai rien de tout cela. Rien de tout cela. Je pose la plume un moment et je rêve sur mon bonheur. Il est complet, mais négatif. Et voilà qu'il me revient, je ne sais pourquoi, un lointain, lointain souvenir. J'avais 19 ans. Je portais la casquette verte des étudiants de belles lettres. Je n'étais pas encore l'homme prudent que je suis devenu. Elle était à peu près de mon âge, très blonde, très pâle, très svelte, avec cette beauté de jour de neige, cette grâce un peu mélancolique des femmes du Nord. Deux fois par semaine, le mercredi et le samedi, en sortant de mes cours, je la rencontrais, accompagnée d'une femme de chambre qui portait un rouleau de musique. Un jour, elle m'arrêta pour me demander une rue. Elle avait un accent bizarre, mais si doux. Je devins rouge et m'embrouillai dans mes explications. Un autre jour, je me trouvai à côté d'elle à un concert, et nous échangeâmes quelques mots, de sorte que, dès lors, j'osai la saluer. Je sentais monter en moi un sentiment qui m'entraînait. J'aurais voulu faire de grandes choses sous ses yeux, me dévouer pour elle. Mais un samedi, je ne l'ai plus rencontrée. Elle était partie sans doute. Moi, je suis restée vouée aux étrangères. À présent, par exemple, cela se passe tout autrement. Je vis entre deux figures qui changent tous les 6 mois, que j'accepte, quelles qu'elles soient et d'où qu'elles viennent, comme un pauvre le pain qu'on lui donne. Elle me sourit et me choie avec ses attentions maternelles qu'ont instinctivement les femmes avec des visées intéressées. Moi, je déchiffre leurs petits sentiments, leurs petits calculs. Je m'amuse à chercher dans leurs actes la part du calcul et celle de la sincérité, ne feignant d'être leur dupe pour qu'elles se déploient davantage et sans dédaigner aucun des menus plaisirs qu'elles me font. Mais jamais, jamais l'envie ne me prend d'accomplir de grandes choses sous leurs yeux. Cela durera ainsi 5 ou 6 ans encore, tant que ma figure ne trahira pas trop mon âge. Et puis, j'en serai réduit à d'autres compagnies, aux mamans des petites filles, aux tantes surtout, aux pauvres tantes qu'on traite avec condescendance et qui braconnent où elles peuvent leur humble part de joie. Bah, qui sait, peut-être que les tantes ont du bon. C'est pourtant cet avenir qui m'inquiète. Je ne suis pas même oncle, moi. Je ne manque pas seulement d'un objet d'affection, mais de tout ce qui pourrait m'en tenir lieu ou m'en donner l'illusion. Que deviendrais-je en vieillissant, dans cette famille cosmopolite et artificielle que seule j'ai su me créer, parmi la succession de ces passants qui changent à chaque saison? Comme un peu de stabilité serait bonne. Par moments, je m'attache presque à Miss Batson, parce qu'elle reste, elle, au moins, avec son rosolio et son mauvais caractère. Et je me surprends à rêver d'avoir dans le cœur, comme tant d'autres, une lumière qui brûle peut-être quelquefois, mais qui réchauffe toujours. L'an dernier, il y avait ici, avec ses parents, des Russes, une petite fille d'environ 2 ans. Elle m'avait pris en amitié. La bouche épanouie, à petits pas, elle venait en me tendant les bras se cramponner à mes genoux, et nous faisions ensemble de grands voyages dans le vestibule. Que de choses charmantes elle m'a gazouillées dans son langage d'oiseau. Un jour, comme les autres, elle a pris l'express, elle a disparu. Jamais départ ne m'a tant ému. Madame Migné, qui a quelquefois de l'esprit, m'a dit malicieusement, en regardant une de mes voisines qui s'attendrissait sur mon attendrissement, « Il en viendra d'autres. » Ah, s'il en venait autant ici, de ces jolis bébés que de filles à marier. Pourquoi chercherais-je à me tromper moi-même? Je ressemble, il me faut bien le reconnaître, à ce portefeuille qui mangeait son pain à l'odeur d'une rôtisserie. Je ne puis savourer que l'ombre des sentiments qui passent à ma portée. Et si j'ai effacé de ma vie tous les soucis, j'en ai banni toutes les joies. Oui, je les voudrais, ces fardeaux qui m'offusquent quand je les vois traîner à d'autres. Je les voudrais, au risque que mes cheveux blanchissent et que mes rides se creusent. Je voudrais vivre pour quelqu'un d'autre que pour moi, connaître d'autres émotions que celle d'examiner au passage les petitesses humaines. Je n'admire plus ma sagesse, et j'envie la folie des gens qui ne pèsent pas leurs actes et se laissent parfois entraîner aux généreuses impulsions de leur cœur. Et si je vis seule, si j'ai cessé peu à peu de fréquenter mes anciens amis, c'est que je souffrais de comparer leur sort au mien, leur maison joyeuse où des enfants rient, où la main élégante de la femme séparait chaque pièce, où, en rentrant de leur travail, ils trouvaient bon accueil et bonne table. À la morne chambre où je végète depuis 8 années. Mais à quoi bon penser à ces choses? C'est trop tard, je le sens bien. Il faut que je marche jusqu'au bout dans la voie où je suis entrée. Et je rêve encore, en exprimant par des points des pensées trop vagues que je ne saurais pas formuler. Puis je ferme mon carnet et je chasse la mélancolie jusqu'à mon prochain anniversaire. 16 décembre. J'ai assisté, ce matin, à la représentation d'une petite scène comique que je ne connaissais pas encore. M'étant levée plus tôt que d'habitude, je suis entrée au salon avant déjeuner pour parcourir les journaux du matin. La porte de communication de la salle à manger était entr'ouverte. Comme je commençais à savourer un article sur la question afghane, j'entendis un léger remuement de tasses et les voix de Madame Aubanon et de Mademoiselle Claire qui engageaient la conversation. Je n'y prêtais qu'une oreille distraite, quand tout à coup, un éclat inattendu et une allusion directe attirèrent mon attention. À propos de je ne sais quoi, Madame Aubanon venait de parler, d'un ton agressif, des personnes mûres pour le mariage qui viennent dans les pensions chercher des maris. C'était précis et même grossier. Aussi la voix ferme de Claire tremblait en répondant « Je vous en prie, madame, qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Oh !» fit la veuve sans changer de ton, « vous me comprenez très bien. » « Je comprends, en effet, que vous cherchez à m'offenser, mais je vous prie de m'expliquer. »« À quoi bon? Ce que je pourrais vous dire ne changerait rien à votre manège. » Claire, dont la voix vibrait de plus en plus, dit sèchement « Le baron est parti, madame. » Cette diversion inattendue exaspéra Madame Aubanon, qui éleva sa voix, un peu aigre dans les notes hautes, et les ripostes se succédèrent comme un feu de fil. « Vous savez parfaitement, mademoiselle, qu'il n'y a pas un mot de vrai dans les sottises qu'on dit à ce sujet, tandis que vos façons avec monsieur Nantoux n'échappent à personne. »«
Mes façons ?»
Il me sembla que Claire se troublait. « Je suis avec lui comme tout le monde, je... »«
Oui, oui, vous passez votre temps à lui dire du mal de moi. » pour l'accaparer à votre aise.
Je ne sais, madame, comment vous pouvez vous figurer.
Oh, niez, niez, je sais à quoi m'en tenir, et tout le monde finira par vous connaître.
Je ne veux plus vous entendre.
Et d'abord, madame Minier vous connaît, et comme elle tient avant tout à la bonne renommée de la maison.
Ah, cette fois c'en est trop. Je vais de ce pas chez madame Minier, et si...
Je jugeai qu'il était temps d'intervenir, et en m'esquivant sans bruit pour passer par le vestibule, j'entendis encore cette phrase
« Vous ferez ce que vous voudrez, mais que vous restiez ou que vous partiez, je ne vous adresse plus la parole. »
Mon entrée fit tableau. Claire et Madame Aubanon étaient debout, chacune d'un côté de la table, devant leur café servi et leurs tartines entamées, penchées en avant, l'œil échauffé, sur le point, je crois, de se jeter la vaisselle au visage. Au bruit de la porte qui s'ouvrait, elles s'interrompirent brusquement, tournèrent la tête et, surprises, tant elles s'étaient oubliées dans leur querelle, restèrent quelques secondes dans cette attitude. Je les saluai et ne pus m'empêcher de leur dire avec un peu de malice « Vous causiez de choses intéressantes, mesdames ?» « Est-ce que je vous interromps ?» Elles devinrent rouges comme deux coquelicots et se regardèrent, rapprochées soudain par la crainte commune que j'eusse entendue, s'interrogeant d'un coup d'œil inquiet et se répondant par un geste de doute. Puis les dernières traces de l'orage se dissipèrent. Elles furent aimables, prévenantes, douces comme des brebis. Madame Aubanon, les traits limpides, me sucra mon café et me passa la crème. Personne n'eût soupçonné les colères qui venaient de crisper ces deux aimables visages, les rancunes qui grondaient encore sous ces apparences gracieuses. Pour moi, tout en déjeunant, je réfléchissais aux abîmes de la diplomatie féminine et me sentais monter dans ma propre estime d'avoir passé entre les mailles de tant de filets sans me laisser prendre.
Ah, je vous connais, mes poulettes. Vous pouvez rouler des yeux célestes et prendre des airs d'ange persécuté. Vous ne me ferez pas renoncer au célibat. » Quand j'eus achevé mon café, je restai à ma place, sans rien dire, soulevant ainsi une nouvelle question. Laquelle des deux s'en irait la première? Il y eut échange de clignements d'yeux, dont chacun avait un sens, quelque chose comme une négociation silencieuse. Puis Madame Aubanon sortit la première, reconnaissant ainsi ses torts et faisant amende honorable. Je restai donc en tête à tête avec Mademoiselle Sandrin. Il y eut un moment d'embarras. Elle me regarda, baissa les yeux, fut sur le point de parler. Mais elle ne dit rien, se leva et sortit à son tour. En passant devant leur chambre, j'ai entendu que Madame Aubanon se promenait de long en large d'un pas précipité et que Claire sanglotait nerveusement. Drôle d'être tout de même que les femmes. Il n'y a, cela va sans dire, pas un atome de passion dans leur cas. Je ne suis pas assez fat pour me faire illusion là-dessus. Et, sans m'aimer, elles se disputent pour moi. Pauvre fonctionnaire, pauvre vieux garçon bientôt fripé, comme si j'étais Don Juan ou le Grand Turc en personne. 23 décembre. Paix générale. Nos deux amies sont plus intimes qu'avant l'orage. C'est à croire que les amitiés féminines ont besoin de ces petites secousses. Elles sortent ensemble comme devant, vont ensemble au cours du soir, se prêtent de nouveau des livres et, quand elles jouent à quatre mains, se font des concessions réciproques. Maintenant, Madame Aubanon joue les sonnettes de Beethoven et Claire chante un air d'Hérodiade. On ne peut être plus accommodant. Hier soir, pour les entretenir dans ces bons sentiments, je les ai conduites au théâtre entendre Mignon. C'était charmant. Nous allions très bien ensemble, tous les trois, dans une bonne loge. L'observateur le plus sagace n'aurait jamais deviné notre situation respective. L'une pouvait être ma femme et l'autre ma belle-sœur, ou bien je pouvais être leur frère, leur oncle, leur cousin, presque leur père. Et tout en écoutant par la musique, je m'amusais à me placer en pensée dans ces diverses situations. Évidemment, la mienne a cet avantage de les résumer toutes et de n'en être aucune. Si j'étais leur père, que d'inquiétude elles me donneraient. Et si j'étais leur oncle, elles ne m'aimeraient pas pour moi-même. Il est vrai que dans l'espèce, je suis un peu logée à la même enseigne. De même que les chats aiment la maison plus que leur maître, les jeunes filles, passées 25 ans, commencent à aimer le mariage plus que le mari. Je le sais bien, mais je tâche de me persuader que je ne le sais pas. Ce matin, elles sont venues l'une après l'autre, leur petite bourse à la main, me demander combien elles me devaient pour leur quote-part. Et elles faisaient des façons pour accepter mon invitation. Ravie d'ailleurs, dans le fond, me trouvant plus aimable encore qu'elles me croyaient, cherchant des motifs à ma générosité, et se disant, avec cette rapacité qui caractérise les femmes à petits revenus fixes, que c'était toujours autant de prix sur l'ennemi. Je lisais tout cela dans leurs yeux. Les moralistes classiques répètent volontiers qu'on n'a pas de plus grand plaisir que ce qu'on fait aux autres. Surtout, ajouterai-je, quand ces plaisirs éclairent à nos yeux le jeu secret de 1000 ressorts curieux. 2 janvier. Nous voilà au bout de cette lugubre période des fêtes qui me paraît plus lamentable d'année en année. C'est le temps des souvenirs d'enfance. Je me revois tout petit et la tête bouclée, chantant des cantiques autour du grand sapin de Noël allumé dans l'église, sous le regard paternel du vieux pasteur assis dans sa chaire. L'hiver a sur la nature jeté son manteau. Plus de fleurs, plus de verdure, et pourtant c'est beau. Puis c'était des souliers que le petit Noël remplissait de belles choses, et la bûche de Noël flambant gaiement dans la cheminée, et l'oie de Noël que la bonne apportait en triomphe. Maintenant, de Noël au jour de l'an, j'erre comme une pauvre âme en peine, par les rues où se coudoient des gens avec des paquets, et le souci des cadeaux ne me préoccupe guère. Les êtres avec lesquels le hasard m'a fait vivre passent, je crois, par les mêmes sentiments. Je les vois troublés comme moi, et nous confondons nos efforts pour nous égayer un peu. Mais l'oie de Madame Migné n'a pas la saveur des oies du temps passé. Le vin de champagne pétille tristement dans nos verres, et les valses que joue Madame Aubanon ne font danser qu'un essaim de mélancolie. Seul, le couple danois conserve son air béat des jours ordinaires. Ils ont échangé entre eux leurs petits présents, sans s'inquiéter de personne, égoïstement dévoués l'un à l'autre. Et je crois, Dieu me pardonne, qu'ils se faisaient des agaceries comme de jeunes amoureux. Mes deux amis n'ont pas manqué l'occasion de me témoigner leur reconnaissance par les soins dont je les entoure et m'ont offert chacune un cadeau. Madame Aubanon, un étui à cigarettes, brodé, et Mademoiselle Claire, un presse-papier en ivoire avec une peinture de sa main. L'étui à cigarettes est le cinquième que je reçois depuis 8 ans. Le presse-papier est une nouveauté, quoique je possède nombre d'échantillons de peinture sur ivoire, sur porcelaine et sur bois. J'ai parcouru aujourd'hui cette espèce de défroque de mon semblant de cœur, ces restes de mes fantômes d'amourette. Il y a, à l'aquarelle, à l'huile ou en broderie, des bouquets de roses, de violettes, des d'aloès et de cyclamènes, des oiseaux, des paysages, le château de Chillon et celui des Allinges, une copie d'après une photographie du jeune Napolitain de Richter, ce dernier présent venant d'une Allemande très blonde et très sensible, dont les soupirs auraient dû fendre mon âme. Je collectionne ces menus objets, comme d'autres les timbres-postes. Ils sont rangés, étiquetés, numérotés, avec photographie des donataires, dans une cassette ad hoc. Les deux souvenirs de cette année iront grossir la collection. 12 janvier. Une chose fâcheuse. Le seul inconvénient réel au flirtage dont j'ai fait la principale occupation de ma vie, c'est qu'il aboutit parfois à des scènes fastidieuses et inutiles. Aujourd'hui, je n'ai pu éviter, ce que je déteste, une explication sentimentale. J'avais déjà remarqué qu'avec les veuves, le flirtage présente d'autres caractères qu'avec les jeunes filles. Elles sont plus précises dans leurs aspirations et n'aiment pas les flâneurs qui, comme moi, s'arrêtent en chemin. C'est le piano qui a servi d'entremetteur. Le piano est dangereux à l'heure du crépuscule, quand la demi-obscurité vous met du vague à l'âme. Et je reconnais qu'on n'a pas absolument tort de l'enseigner aux jeunes filles. Il peut toujours servir. Voilà comment, il y a 3 jours, un nocturne de Chopin, joué par Madame Aubanon entre 4 et 5 heures du soir, dans le salon vide où j'ai eu l'imprudence d'entrer, s'est terminé par un long serrement de mains silencieux, par des regards étoilés et par un baiser. Mon Dieu, oui, par un vrai baiser, incontestablement positif, qui s'est même prolongé quelques secondes, qui était très amoureux et très expressif. Est-ce elle qui s'est penchée sur moi, ou moi qui me suis penchée vers elle? Comment me trouvais-je imprudemment à portée de ses lèvres? Je ne sais. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle s'est enfuie, en me jetant un regard qui a traversé l'ombre comme un éclair, et que, restée seule, je me suis trouvée très bête et très imprudent. Maintenant, il s'agit de battre en retraite, et la défensive est toujours plus difficile que l'offensive. J'en suis réduit à ne plus me montrer. J'arrive en retard à table, j'en sors avant le dessert, on ne me voit pas au salon, j'évite les regards étonnés, tendres, interrogatifs, irrités ou blessés que je sens peser sur moi. De plus, quoique cette conduite m'occasionne quelques remords, car je n'arrive pas à mettre des torts de mon côté, je suis rempli d'attention pour Claire, qui rayonne. Il y a, cela va sans dire, nouvelle brouille entre elles. Elles ne se parlent plus et ne se saluent qu'avec des airs pincés. Pourtant, elles sont charmantes toutes deux. Je les crois, malgré leurs petits défauts, bonnes, généreuses, intelligentes, sensibles, fines. Et elles méritent fort, l'une et l'autre, de trouver un mari. Pourquoi faut-il que précisément elles s'adressent à moi qui ne veux pas me marier? Il y a des quantités d'hommes de mon âge, ou plus jeunes, qui ne demandent qu'à trouver une femme et n'en trouvent point. Moi, je suis décidée à m'en passer, et elles se lèvent autour de moi comme des lièvres sous les pas d'un aveugle. Je les aime, c'est sûr, je les aime beaucoup, mais pas comme elles veulent être aimées. Ni pour surveiller mon pot-au-feu, ni pour frictionner mes rhumatismes, ni pour perpétuer ma race, ni pour leur causer les embarras d'une liaison. Je les aime en tout désintéressement, sans songer à en retirer quelque chose, comme on aime le chant des oiseaux, l'éclat du soleil, le parfum des fleurs, toutes les bonnes choses, enfin. Ah, si cela pouvait leur suffire! Mais cela ne leur suffit pas. Et les regards de Madame Aubanon m'avertissent que, si je ne me hâte de prendre un parti, elle fera un coup de tête. Le baron n'ayant pas été remplacé, et M. Vogel, le pianiste allemand, étant parti à la fin de l'année, Madame Minier commençait à trouver que sa saison se gâtait. Quand il lui est tombé du ciel un nouveau pensionnaire, c'est un Italien, nommé Arnoldi, fort beau garçon et, quoique un peu jeune, très apte à me faire une redoutable concurrence. Il madrigalise en zézayant, prend des poses et des attitudes, s'efforce de se mettre en évidence et y réussit. Il attire les regards courroucés de la capitaine de l'armée du salut, étonne le couple danois, scandalise Miss Batson et inquiète Madame Minier. Depuis la scène du piano, Madame Aubanon s'est mise à répondre à ses avances avec l'étourderie ou l'emportement que je lui connais. Cela me trouble. J'ai peur de voir se renouveler l'histoire du baron. Je ne me sens pas tout à fait innocent des folies de la jolie veuve. Ah, la pauvre petite femme! Trop heureuse si elle s'en tire avec ce que l'autre lui a laissé de bijoux. 31 janvier. Je ne sais quel courant de feu passe depuis quelques jours dans l'air de la pension. L'atmosphère en est troublée, comme aux approches d'un orage, et tout le monde s'en ressent. La capitaine de l'armée du salut a une figure d'apocalypse. Le couple danois devient presque inconvenant à force de petites tendresses intimes. Et le nez de Miss Batson en est au violet permanent. Il n'y a pas jusqu'aux deux petites écossaises dont les yeux en pétillent plus que de raison. Seule Claire Sandrin demeure calme, presque placide, voyant tout et ne disant rien, et ne montrant rien d'elle-même. Décidément, c'est une jolie nature, sereine et simple, malgré un peu trop de finesse, une de celles qui m'ont le mieux plu depuis que je les connais. S'il me fallait absolument... Mais il ne me faut pas, et je la verrai partir au printemps, comme j'ai vu partir les autres, comme tout le monde voit partir les hirondelles. Encore 2 mois, peut-être 3. Puis changement à vue, et tout a recommencé. La cause de cette agitation générale, c'est la conduite de Madame Aubanon avec son Italien. La pauvre femme se perd, c'est sûr, et on la regarde sombrer. Quant à l'Arnoldi, il se rengorge, il triomphe, comme un ténor en train de tourner la tête à une princesse. Elle est toute à sa passion, la laisse déborder, l'étale, car c'est bien une passion cette fois, ou quelque chose qui y ressemble, un caprice, un coup de tête, que sais-je. C'est l'ennui, le dépit, la solitude, la fatigue de cette existence terne et plate, et il y a probablement encore des causes secrètes, peut-être une vraie sympathie pour ce belâtre. Quoi qu'il en soit, les gens ne s'abordent qu'en parlant d'eux, on les suit pas à pas, on devine leurs pensées.
Je crois qu'elle est allée dans sa chambre,
m'a dit triomphalement Miss Batson, dont les yeux ni les oreilles ne perdent jamais rien. Et un moment après, je l'ai entendu causer avec la capitaine des péchés dont le monde est gonflé, de la laideur du mal et de la nécessité d'un nouveau déluge. Symptôme plus grave, Madame Migné, qui est très prudente, qui prend toujours le parti de ses pensionnaires et dont la morale consiste essentiellement à sauvegarder les apparences, ne sait comment dissimuler son inquiétude, les deux amoureux paraissant bien résolus à ne rien sauvegarder du tout. Pour moi, j'observe de mon mieux, mais ne dis rien à personne. Si, pourtant, j'en ai causé avec Claire de la question Arnoldi. En sortant de table, un jour que Miss Batson s'était penchée à toutes les oreilles pour dire qu'ils étaient toujours dans la chambre l'un de l'autre, et qu'on ne savait pas, après tout, ce qui se passait entre eux, et qu'il ne se passait peut-être rien de malhonnête, mais qu'il fallait pourtant qu'une femme fît attention à sa conduite. Claire m'a dit avec indignation qu'elle trouvait honteux tous ces commérages, qu'il ne fallait pas se mêler des affaires des autres, qu'on n'avait absolument rien de précis à dire contre Madame Aubanon. Toujours la ligue des femmes. Certainement, Claire n'aime pas Madame Aubanon. Elle ne la comprend pas, étant d'un autre caractère et d'un autre tempérament. Mais elle prend son parti tout de même. 3 février. Hier, par un froid tardif et subit, partie carrée de patinage. Claire et Madame Aubanon s'étant réconciliées une fois de plus. Que j'aime cette campagne d'hiver! Les brouillards cachent les montagnes. Dans le ciel tout blanc, les arbres blancs de givre dressent une végétation inconnue et capricieuse. Les aspects des choses sont changés comme leur couleur. Et le vent froid qui vous cingle fait bourdonner en vous 1000 idées confuses, sourdes et rares. Claire et moi, nous glissions sur la glace, ivres de vitesse, et je sentais sa main se réchauffer dans ma main, tandis que ses yeux brillaient sous sa voilette qu'emportait la buée de son souffle. Arnoldi, majestueusement drapé dans une espèce de cape qu'il porte pour compléter sa physionomie, grelottait et grognait sur la rive. Madame Aubanon l'oubliait un peu, dans ce spectacle nouveau pour elle d'un millier de personnes voltigeant comme sur un immense miroir. Je l'ai promenée dans un fauteuil à traîneau. Elle se retournait, riait, me disait « J'ai peur !» Et puis « Oh, c'est bon d'aller vite !» Et « Encore un peu, voulez-vous ?» Nous étions très amis tous les trois, rajeunis de beaucoup d'années. Un collégien échappé avec 2 pensionnaires. Et je me réjouissais comme un enfant de la mauvaise humeur d'Arnoldi, qui avalait des grogues et soufflait dans ses doigts pour se réchauffer. Nous sommes restés jusqu'au soir, jusqu'au moment où, dans la lumière du crépuscule, les patineurs rapides et silencieux semblent de fantastiques ombres. Puis nous sommes rentrés, moulus, ne disant plus rien, ne pensant plus rien, comme noyés dans l'inconsciente béatitude de la fatigue physique. 25 février. Cela devait arriver, hélas.
cette jolie madame Aubanon est partie avec Arnoldi. Ces derniers jours, il y avait eu un brusque changement dans leur manière d'être respective. Arnoldi, tout à coup, est devenu beaucoup moins obséquieux et beaucoup plus dégagé, tandis que la petite veuve, l'air angoissé, repliée sur elle-même, roulait évidemment dans sa tête toutes sortes de problèmes difficiles. Les commérages redoublaient, cela va sans dire. Les petites Écossaises demandaient ce qui se passait, et leur dogue de maman leur jurait qu'il ne se passait rien. Miss Batson, le nez pâle d'indignation, rôdait sans cesse dans les vestibules avec des airs de chien de chasse. Elle tenait à chaque découverte de longs conciliabules avec la capitaine, et l'on voyait qu'à elles deux, elle se préparait à organiser une défense formidable de la morale. Madame Minier, tout à fait perplexe, ne savait comment rassurer l'opinion inquiète. Avant-hier, Miss Batson et la capitaine ayant exécuté des manœuvres particulièrement inquiétantes, elle s'est décidée à recourir à mes lumières, après m'avoir fait jurer le secret. À cette occasion, j'ai admiré comment elle fait sa petite police sans en avoir l'air. Elle a tout vu, et sait tout. Elle est sa maîtresse depuis 5 jours. Je suis sûre qu'elle savait l'heure. Que voulez-vous que je devienne? Il va se produire un scandale, c'est sûr. Impossible de cacher une chose pareille à Miss Batson. Et tout le monde s'en ira. Non, non, je suis bonne, mais je ne puis admettre que dans ma maison il se passe des choses pareilles. Je l'ai engagée à les couvrir de son indulgence. Oh, vous, ça vous est égal, je sais bien. Ça vous amuse même. Mais moi, vous comprenez pourtant qu'il s'agit de l'honneur de ma maison. Elle a fini par reconnaître que le plus sage était d'éviter autant que possible un esclandre, qui, après tout, pouvait fort bien ne pas éclater, et m'a supplié de changer de chambre, sous un prétexte quelconque, avec Arnoldi. Celle que j'occupe se trouvant à l'abri des investigations de Miss Batson. Cet arrangement ne me plaisait guère, car j'ai mes habitudes auxquelles je tiens. Je m'y suis pourtant prêtée pour faire endêver la vieille anglaise. Cela n'a pas servi à grand-chose, et maintenant qu'ils sont partis tous les deux, livrant ainsi leur secret à tous les commentaires, Miss Batson n'épargne pas les mots cruels à Madame Minier. Si ses amis d'Angleterre savaient à quelle compagnie elle se trouve exposée, ils voudraient tous la voir chez eux, à l'abri des mauvais exemples. Les yeux intelligents des petites Écossaises, qui ont tout compris, m'amusent beaucoup et indignent la capitaine. Le couple danois converse avec une animation extraordinaire. Le jour de la catastrophe, Claire m'a regardée avec ses grands yeux francs et m'a dit « C'est un malhonnête homme. » 4 mars. Il y a toujours une période de calme qui succède aux orages. La maison est rentrée dans l'ordre. Mais, comme la capitaine est partie pour quelque expédition, Madame Minier a déjà 3 chambres vides et n'est pas contente. Il va sans dire que j'ai repris la mienne, au grand déplaisir de Miss Batson, qui s'intéressait extrêmement à mes faits et gestes et profitait de mon voisinage immédiat pour venir, en tapinois, aux heures propices, constater que j'emportais les clés de tous mes tiroirs. Elle devient d'ailleurs de plus en plus méchante. À table, elle m'a dit, en plantant ses yeux sur le visage de Claire, qui est devenue toute rouge, « C'est égal, monsieur Nantou. Ce n'est pas vous qui vous conduiriez jamais comme cet Arnoldi. » Du reste, ma proposition vis-à-vis de Mademoiselle Sandrin est maintenant parfaitement nette. Elle m'a deviné ou compris. Elle sait que je ne suis pas à marier. Et comme elle ne veut pas d'aventure, elle m'accepte telle que je suis. C'est la 3e fois que mes flirtages finissent ainsi. Et c'est à coup sûr la conclusion la plus heureuse qu'ils puissent avoir. Claire a trop de bon sens pour m'en vouloir d'être imprenable, et ses façons à mon égard n'ont point changé. Elle continue à souffler dans mon atmosphère ses douces câlineries et me laisse jouir en parfait désintéressement de sa grâce et de son charme. Nous causons comme des camarades de tous les sujets. Je l'accompagne de temps en temps aux cours publics, au théâtre, au concert, avec une entière liberté. Nous mettons en commun nos idées, nos observations, nos sentiments même, et chacun de nous est heureux de ce que l'autre veut bien lui donner. Une fois, dans une heure d'expansion, elle s'est ouverte à moi. Elle m'a confié ses projets d'avenir. « J'ai envisagé, m'a-t-elle dit, le cas de plus en plus probable où je resterai vieille fille. C'est un peu humiliant, sans doute. » Ses yeux souriaient avec un demi-reproche. « Et je sais bien que ce n'est pas là la vraie destinée de la femme. Mais enfin, j'en prends mon parti. J'arrangerai ma vie et j'arriverai au bout sans chat ni petit chien, et peut-être sans ridicule. » Il y a déjà mille choses qui m'intéressent. Je tâcherai de m'intéresser à des choses nouvelles. J'ai déjà trouvé deux consolations à la solitude, et je ne désespère pas d'arriver à la pratiquer. La première, c'est de savoir descendre en moi-même, et la seconde, d'aimer les autres. Elle me disait cela si joliment que je me suis sentie plein d'affection pour elle. Il s'en est fallu d'un rien, oui, d'un rien, que je ne m'oublie, que je ne lui demande à partager cette destinée. Mais je n'ai rien dit. Je sais trop bien résister à mes impulsions. Peut-être ai-je eu tort, parce qu'à présent que j'ai réfléchi, je me tairai. Et il me semble pourtant qu'on doit être heureux avec une aussi charmante créature. 16 mars. Les trois Écossaises sont parties. Nous sommes donc presque en famille. Et comme Claire n'est pas difficile, comme le couple danois est toujours content, on nous sert de nouveau les menus des mauvais jours. Je m'en aperçois à peine d'ailleurs. Le printemps approche, je sais qu'il va m'enlever cette amitié qui commençait à m'être chère, et je profite de mes derniers jours. Que d'autres à ma place ne se trouveraient pas trop vieux pour changer de vie? Que d'autres jetteraient loin d'eux la défroque de leur passé? Enfin, je me figure ce que serait mon existence aux côtés de cette aimable femme, dont l'activité tranquille me créerait un intérieur délicieux. Mais non, trop de choses m'arrêtent. J'ai peur des dérangements, des enfants, du ménage. Je manque de l'énergie qu'il faudrait pour prendre un parti, et mon rêve finira avec les premiers beaux jours. Je suis condamnée à Miss Batson à perpétuité. 29 mars. Claire part dans 3 jours. Oui, dans 3 jours va se dénouer ce nœud d'amitié charmante à laquelle je m'étais si bien accoutumée. Ce soir, nous avons causé longuement, à demi-voix, comme des gens qui ont beaucoup de choses à se dire. J'étais attendrie, je lui ai demandé « Pourquoi partez-vous ?» Elle m'a répondu d'un ton à la fois résigné et railleur. « C'est que, voyez-vous, j'ai déjà mes habitudes. Et les habitudes, n'est-ce pas, c'est sacré, pour une vieille fille aussi bien que pour un vieux garçon. Je passe le mois d'avril chez ma sœur, qui est mariée à Neuchâtel, et le mois de mai chez mon frère, à Lausanne. Et l'été, je m'en vais à la montagne avec eux. J'ai des petits-neveux et des petites-nièces qui ne sont pas encore d'âge à supputer mon héritage. Pourquoi reculerais-je le plaisir de les voir? Mais l'hiver prochain, reviendrez-vous ici? » Ma voix tremblait en lui posant cette question. Elle réfléchit un peu avant de me répondre. « Peut-être, je ne sais pas. Je me suis bien trouvée de mon séjour à Genève. La pension Minier me convient assez, mais il est possible que j'aille en Italie. » Plus que 3 jours, plus que 3 jours. Il serait temps encore. Sinon, qu'attendre ? 1er avril. C'est fini. Elle est partie. Par l'express du matin, comme tant d'autres. À déjeuner, il y avait encore le couple danois. Mais ils ne comptent pas, avec sa langue inintelligible. Et je ne veux plus les regarder. Ces petits vieux uniquement occupés l'un de l'autre. C'était donc comme si nous avions été seuls, en famille. Et Miss Batson s'est écriée, comme d'habitude, avec un soupir de soulagement, « Ouf, la voilà partie, enfin !» Puis, quand la bonne a apporté le plat d'entrée, elle a ajouté « Cette fois, c'est l'air des ragoûts et elle sera longue. » Il y a eu un silence, rompu seulement par les susurrements du couple danois. Puis Madame Minier a remarqué que la saison, cette année, finissait bientôt pour elle. Cette fois, je n'ai rien dit pour la consoler.